Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 13h à Melbourne, 5h du matin à Paris et 3h en temps universel. Vous écoutez votre programme en français SBS French. Merci pour votre présence. Je suis Marianne Murat, et comme d'habitude, très heureuse de passer cette heure à vos côtés. Au programme aujourd'hui, comme chaque jeudi, on va parler économie et on va voir que l'accès à l'eau est devenu un luxe en Ukraine après la destruction des systèmes de distribution. Ensuite, on va ouvrir une page culture avec du théâtre d'abord. J-2 avant le lancement de la pièce écrite par Laurent Auclair dont on vous parlait la semaine dernière dans le programme. Et musique ensuite, Chris Cody nous parle de ses prochains concerts avec ses musiciens de jazz. Il a été interviewé par Jean-Noël Ducasse. Tout ça, c'est pendant une heure, mais on commence d'abord par le journal, suivi du journal des sports. Les titres de l'actualité de ce jeudi 2 juin, 99e jour de l'invasion russe, l'Europe aide économiquement en prenant une nouvelle série de sanctions à l'égard de Moscou. Les États-Unis, eux, aident militairement en fournissant des lance-roquettes à Kiev. Fin du procès ultra-médiatisé qui opposait aux États-Unis l'acteur Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard. Tous deux condamnés pour diffamation, le procès s'est soldé par un verdict à plusieurs millions de dollars. Deuxième tournée diplomatique pour Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères est déjà de retour dans la région Indo-Pacifique, juste quelques jours après son homologue chinois. Et enfin du sport, avec la fin des quarts de finale de Roland-Garros, des grands noms ont été sortis du tournoi, lesquels, on vous dit tout dans le journal des sports. C'est la fin d'un régime d'exception de presque 30 ans. Le Danemark va rejoindre la politique de défense européenne, alors que jusque-là, il n'était pas obligé d'y contribuer. Les citoyens danois ont voté oui à ce référendum à 67%. Cette large majorité est la conséquence, bien sûr, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et intervient peu de temps après la demande d'adhésion à l'OTAN des voisins suédois et finlandais. C'est donc toute l'Europe qui est en train de revoir sa stratégie militaire. L'Europe qui continue d'ailleurs sa série de sanctions à l'égard de Moscou. Les 27 ont décidé de prononcer un embargo sur le pétrole russe, ce qui devrait permettre de réduire de 90% les importations d'ici la fin de l'année. Même pas peur, répond le Kremlin par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov.
Ces sanctions, bien sûr, auront un impact négatif sur l'ensemble du continent, pour les Européens, pour nous et pour l'ensemble du marché mondial de l'énergie. Mais nous, nous sommes en train de nous réorienter vers d'autres directions. C'est une action ciblée qui nous permettra de minimiser les conséquences négatives et, je le répète, les Européens aussi ressentiront des effets négatifs.
Soutien économique de la part de l'Europe donc et soutien militaire du côté des États-Unis. Washington va fournir aux Ukrainiens des nouvelles armes dont des lance-roquettes multiples qui vont être montées sur des blindés légers. Cet équipement fait partie d'une nouvelle enveloppe américaine de 700 millions de dollars. L'objectif, il est de permettre aux soldats ukrainiens de mieux se défendre en touchant plus précisément les objectifs clés sur le champ de bataille. C'est en tout cas ce qui est écrit dans le communiqué. Mais soucieux de ne pas être considéré comme co-belligérant et donc pour que ça ne passe pas pour une déclaration de guerre, et bien Joe Biden insiste sur le fait qu'il n'encourage pas l'Ukraine à frapper le territoire russe. On écoute Colin Cole, il est haut représentant du Pentagone.
We are mindful of the escalation risk and everything we're doing associated with this. President Biden has made clear we have no intention of coming into direct conflict with Russia. We don't have an interest in the conflict in Ukraine widening to a broader conflict or evolving into World War III. So we've been mindful of that. But at the same time, Russia doesn't get a veto over what we send to the Ukrainians. The Ukrainians didn't start this war, the Russians did.
Réaction du Kremlin qui accuse le gouvernement Biden de, je cite, « jeter de l'huile sur le feu ». Alors ces armes livrées, justement, on sait à quoi elles vont servir, mais on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Ce dont il faut s'inquiéter, selon le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, il y a fort à parier, dit-il, qu'on assistera à une hausse du trafic d'armes une fois la guerre finie. On l'écoute.
So we have to expect that these weapons will be trafficked, that they will show up not only in the neighboring region of a conflict zone, but we have experienced that these weapons might be trafficked to other continents. So we need to be prepared. Interpol is offering a number of services and databases to trace and track the trading of weapons.
Voilà pour l'inquiétude de Jürgen Stock, donc secrétaire général d'Interpol. Et en attendant, bien, la guerre n'est pas terminée, hein, loin de là. Après de 100 jours de l'invasion russe en Ukraine, la bataille fait rage sur le terrain. Les séparatistes pro-russes affirment avoir encerclé la ville d'Advihika, au nord de Donetsk. À Moscou, la correspondance d'Anissa El-Jabri pour Radio France Internationale.
Deux semaines que l'assaut sur cette ville forteresse et fortifiée se préparait. À Donetsk, les autorités avaient demandé aux civils d'évacuer la zone de l'agglomération nord. Avdiivka est en quelque sorte dans la banlieue de la capitale de cette république séparatiste pro-russe. Depuis quelques jours, la bataille pour le contrôle de cette ville industrielle était devenue âpre, avec des missiles tombant sur Donetsk, sirènes d'alerte, morts et blessés en plein centre-ville. Ce mercredi, les forces pro-russes annoncent la prise de contrôle d'un axe important, l'une des deux lignes d'approvisionnement de la garnison d'Avdiivka. Autrement dit, si cette affirmation se confirme, la pression militaire russe sur cette ville serait montée de plusieurs crans. Sa prise représenterait deux gains. Gains symboliques car elle est depuis 2014 quasiment sur la ligne de front, conquise cette année-là par les séparatistes puis reprise. Gain tactique aussi, faire plier Avdiivka serait pour les Russes s'ouvrir le chemin vers la grande ville de Kramatorsk, à peine une centaine de kilomètres plus loin.
Dans le reste de l'actualité internationale, une nouvelle fusillade aux États-Unis seulement une semaine après la tuerie de l'école primaire d'Uvalde au Texas. Cette fois, le drame s'est produit sur le campus d'un hôpital à Tulsa, dans l'Oklahoma. Au moins 4 personnes sont décédées, en plus du tireur. À Shanghai, les 25 millions d'habitants se réveillent un peu plus libres. La plus grande ville de Chine lève progressivement les restrictions après 2 mois de confinement strict. Retour au travail, réouverture des transports en commun et de certains magasins. C'est un semblant de vie comme avant, même si le retour à la normale n'est pas encore d'actualité. Tests PCR obligatoires, commerce limité à 75% de leur capacité, salles de sport, cinéma, restaurant, tout ça c'est encore fermé. Une politique anti-Covid qui exaspère la population et étrangle l'économie. Écoutez la réaction d'un commerçant de Shanghai, suivie de l'analyse de Françoise Nicolas. Elle est la directrice du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales.
Never has something like this ever happened. During the pandemic, we never closed shop. We used to have precision lockdowns specific to several square meters, but now it covers everything. And there's nothing you can do. It's even worse if you don't clear all the cases.
Le gros problème, c'est que cette Chine, c'est quand même un gros morceau de l'économie mondiale. C'est une source de demande. C'est aussi une source de production de pièces détachées, de composants, de produits intermédiaires pour le reste de l'économie mondiale. Et donc, lorsque la Chine va mal, c'est malgré tout l'ensemble de l'économie mondiale qui peut être touchée. Les chaînes de valeur sont extrêmement imbriquées aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe en Chine a nécessairement un impact sur le reste de l'économie mondiale. C'est un fait, oui. Du point de vue politique, il est absolument exclu de changer de stratégie. C'est une stratégie qui a été décidée, c'est une stratégie qui a été présentée comme étant une réussite, et donc il est très très difficile pour Xi Jinping maintenant de rétro-pédaler en quelque sorte. Ce serait perdre la face, ce serait reconnaître qu'il s'est trompé, et ça c'est absolument exclu. Donc s'il y a une reprise de l'épidémie, il y a de grandes chances pour que cette stratégie zéro Covid soit maintenue, et donc que les confinements soient à nouveau mis en place.
On vient donc d'entendre un commerçant de Shanghai, puis Françoise Nicolas, directrice du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Les inquiétudes grandissantes de l'Organisation mondiale de la santé concernant l'épidémie de monkeypox, la variole du singe. Plus de 550 cas ont été détectés dans 30 pays à travers le monde. On écoute le directeur général de l'OMS, il évoque les cas probables de transmission.
More than 550 confirmed cases have now been reported to WHO from 30 countries. that are not endemic for monkeypox virus. Investigations are ongoing, but the sudden appearance of monkeypox in many countries at the same time suggests there may have been undetected transmission for some time. So far, most cases have been reported among men who have sex with men presenting with symptoms as sexual health, at sexual health clinics.
On en vient au verdict de l'un des procès les plus médiatisés des États-Unis, Amber Heard contre Johnny Depp. Eh bien, le jury a tranché et l'actrice américaine a été déclarée coupable de diffamation à l'encontre de son ancien époux. Elle doit lui verser pas moins de 15 millions de dollars. Et même si c'est une victoire pour l'acteur, eh bien Johnny Depp a lui aussi été reconnu coupable d'avoir diffamé par l'intermédiaire de son avocat Amber Heard. Il doit donc lui octroyer 2 millions de dollars. On écoute la satisfaction de son avocate, Camille Vasquez.
Today's verdict confirms what we have said from the beginning, that the claims against Johnny Depp are defamatory and unsupported by any evidence. We are grateful, so grateful to the jury for their careful deliberation, to the judge and the court staff who have devoted an enormous amount of time and resources towards this case.
Au cours de ce procès, ont été rapportés des faits de violence conjugale et d'agression sexuelle. Alors si vous en ressentez le besoin, vous pouvez contacter la ligne de soutien au 13 11 14, je répète le 13 11 14, ou bien envoyer un SMS 1800 RESPECT, 1800 RESPECT, 1800 RESPECT. En Australie, la ministre des Affaires étrangères effectue déjà son deuxième déplacement dans la région Indo-Pacifique. Penny Wong est aujourd'hui dans les îles Samoa avant de se rendre dès demain au Tonga. Un déplacement qui suit de près celui de son homologue chinois Wang Yi, venu dans le Pacifique pour signer des accords de sécurité. On écoute à ce sujet le ministre des Finances, Jim Chalmers.
I'm proud to have been involved in some of the policy development around climate change, around official development aid and in other ways. Our government is very focused on the Pacific, on our own neighbourhood. You've seen that already and you can expect to see more of it.
Et Jim Chalmers, justement, qui parallèlement a détaillé certaines mesures économiques du nouvel gouvernement albanaisé. Il y a peu de chances, dit-il, que la réduction sur la taxe carburant soit prolongée après septembre. Le coût de la vie va donc probablement augmenter. Un budget détaillé sera publié en octobre. On écoute le trésorier.
The former government legislated that relief to end in September. I said to you before the election and after the election that we would find it very difficult to extend that. Obviously, we consider the conditions at the time, but I think Australians should consider it unlikely.
13h12 minutes sur SBS French, il est temps de faire un point sur la météo de cet après-midi. Il y a des averses à Perth, il fait 20 degrés, nuageux à Adélaïde 15 degrés, nuageux à Melbourne également 13 degrés, Hobart 12 degrés, comptez 11 degrés à Canberra avec du brouillard, brouillard également à Sydney comptez 18 degrés, nuageux à Brisbane 19 degrés, nuageux à Cairns également 28 degrés et celui qui fait figure d'exception, Darwin, du grand soleil 32 degrés. Le rappel des titres. Les États-Unis livrent des armes à l'Ukraine et l'Union européenne se met d'accord pour un embargo sur le pétrole russe. L'actrice Amber Heard condamnée pour diffamation contre son ex-mari Johnny Depp. Penny Wong déjà de retour dans la région Indo-Pacifique. Et une nouvelle fusillade aux États-Unis qui fait au moins 4 morts sur le campus d'un hôpital dans l'Oklahoma.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
C'est la fin de ce journal, mais surtout restez sur SBS News, SBS French, pardon, ce n'est pas la fin de cette émission. Tout de suite, le journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse. On va bien sûr parler de Roland-Garros, la fin des quarts de finale et surtout les noms de ceux qui atteignent le dernier carré.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis à Roland-Garros et avant de revenir sur la fameuse victoire de Rafael Nadal contre Novak Djokovic, on va parler d'abord des matchs d'hier. les quarts de finale avec Marin Cilic, le Croate, qui a battu Rublev, le Russe, en 5 manches, 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6. On écoute d'abord la réaction de Paul-Henri Mathieu, le Français qui a assisté au match.
Vraie seconde jeunesse, alors on connaît Marin Cilic qui a gagné l'US Open en 2014, il a effectué 3 finales en tournoi du Grand Chelem. C'est un joueur qui est un petit peu sous-estimé hein, parce qu'il n'est pas très charismatique mais il joue extrêmement bien. Il a été quand même 3e mondial, donc dans la période avec Djokovic, Federer et Nadal, c'est assez exceptionnel. Donc là il retrouve effectivement une fougue de son ancienne jeunesse. Il a envie de bien jouer à nouveau. Alors il a été un petit peu fragile hein, physiquement ces dernières saisons. Et on a l'impression maintenant qu'il rejoue un petit peu sans douleur. Il a fait un match vraiment exceptionnel face à Medvedev au tour précédent. Et là, première demi-finale à Roland-Garros.
Analyse du match maintenant avec Eric Mamrut pour RFI.
Et oui, on ne l'attendait pas à ce niveau. Marin Cilic, 33 ans, pensait peut-être que sa carrière était derrière lui. Hein. Il avait quand même remporté l'US Open il y a déjà 7 ans, en 2015. Fait de finale en 2017-2018 en Australie et à Wimbledon. Et le voilà qui vit une seconde jeunesse ici à Roland-Garros. Il avait défait sèchement Daniil Medvedev, le numéro 2 mondial au tour précédent. Et bien, il s'est payé le scalp de son compatriote Andrei Rublev, 7e joueur mondial, en 5-7. Donc 4h10 d'un long combat, achevé donc sur le score de 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6. Ça s'est joué donc au super tie-break. Hein, c'est la nouveauté lors de ce Roland-Garros 2022 et un super tie-break qu'il a totalement survolé. 10-2 avec un Marin Cilic surpuissant, pas du tout fatigué après ce long bras de fer. Il a asséné ses frappes du fond du court au service en coup droit. Ça a totalement estomaqué le 7e joueur mondial, Andrei Rublev, dans les cordes. Donc malgré ses 24 ans, Marin Cilic pour la première fois en demi-finale ici à Roland-Garros, il imite son illustre compatriote Ivan Ljubicic qui avait atteint les demi de Parisienne en 2006.
Casper Ruud, le Norvégien, s'est imposé contre Holger Rune, le Danois, en 4 manches, 6-1, 4-6, 7-6, 6-3, et retrouve donc le vétéran Marin Cilic en demi-finale. Quart de finale dame avec Swiatek, la Polonaise, qui a battu Pegula, l'Américaine, en 2 manches, 6-3, 6-2. Kasatkina, la Russe, a battu sa compatriote Kudermetova en 2 manches, 6-4, 7-6. Et puis à noter qu'en quart de finale des doubles dames, la paire française Caroline Garcia et Kristina Mladenovic qui passent en demi-finale en battant les Chinoises Zhu et Yang. Et les Françaises retrouveront la paire américaine Goff et Pegula. Alors, Rafael Nadal est en demi-finale après avoir éliminé le numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic. C'était mardi soir, le match a pris fin mercredi matin aux petites heures, 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. On écoute d'abord la réaction de Rafael Nadal qui jouera son prochain match contre Alexander Zverev, l'Allemand, en demi-finale.
So I just give myself a chance to be back on court, play another semifinals here in Roland Garros means a lot to me. If I am not playing good or if I am losing in that semifinals match, not going to be because I am not going to be focused on that semifinals match.
Et maintenant, la réaction de Guy Forget, l'ancien directeur de Roland-Garros, sur la performance de Rafael Nadal.
Le match a atteint des sommets au niveau du jeu, de l'engagement, de la précision. Le central était plein à craquer, c'était fabuleux à voir, mais c'est lui qui tire son épingle du jeu et qui fait craquer le numéro 1 mondial. Donc, une nouvelle fois, Rafa redevient, je dirais, le favori maintenant à partir de ses demi-finales. Mais ce qui était formidable, c'est la manière qu'il a de jouer le bon coup au bon moment, sachant qu'il va un peu moins vite que par le passé. Et de ce fait, il se pousse à être beaucoup plus agressif. Et je crois que c'est son jeu extrêmement percutant aujourd'hui qui a posé de gros problèmes à Novak Djokovic. Donc voilà, il faut compter avec lui une nouvelle fois. Et il redevient le grand favori de ce tournoi.
Et maintenant, l'analyse du match Nadal-Djokovic avec Eric Mamrut, l'envoyé spécial de RFI.
Je vous dis merci, 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 et merci à tout le monde. C'est pour moi incroyable.
Il n'y croit pas lui-même, Rafael Nadal. Après ses 4h20 de dimanche contre Félix Auger-Aliassim, le roi de la terre battue a réussi à dompter son grand rival serbe après un bras de fer de 4h12. Un départ canon, un final époustouflant et entre les deux une résistance farouche. Bien trop irrégulier, Novak Djokovic a dû s'avouer vaincu sur le score de 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Malgré ses 36 ans et son pied gauche cabossé, Rafael Nadal reste donc increvable au point d'impressionner son compatriote et ancien double finaliste de Roland-Garros, Alex Korecki.
Je suis tellement impressionné parce que je ne savais pas s'il va être capable de jouer à cette vitesse. Ça, c'est la clé du match. Si tu joues de la première balle à la dernière à la même intensité, ça, c'est tellement incroyable. Et c'est pour ça que je suis tellement surpris et content pour Rafa de voir que lui est capable de faire ça encore.
Rafael Nadal qui n'est plus qu'à deux marches de décrocher un 14e Roland-Garros et une 22e couronne en Grand Chelem. Son adversaire vendredi en demi-finale, l'Allemand Alexander Zverev, peut déjà trembler. Le taureau de Manacor est loin d'être à bout de souffle.
On passe au foot. Le latéral gauche des Socceroos, Aziz Behic, pense que les autres membres de l'équipe peuvent faire de leur mieux en l'absence du milieu de terrain Tom Rocic lors du match des qualifications de la Coupe du Monde dans le barrage asiatique la semaine prochaine contre les Émirats Arabes Unis et ce match sera disputé au Qatar. Aucun joueur supplémentaire n'est appelé pour remplacer Rodic, qui a cité des raisons personnelles pour son retrait de l'équipe pour ce mois de juin. L'Ukraine rêve de jouer la Coupe du Monde de foot et hier a battu l'Écosse au premier tour des barrages. 3-1, la finalissima avec la victoire de l'Italie contre l'Argentine, un match qui s'est déroulé à Wembley, à Londres, le score 3-0. Et puis il y avait aussi un match de la Ligue des Nations dans le groupe 4 de cette première journée avec la victoire de la Pologne contre le Pays de Galles, 2-1. Les qualifications pour la CAN de 2023, c'est parti depuis hier. Les précisions de Zéphirin Quadio et de Tom Rossi pour RFI.
48 équipes engagées, 24 obtiendront leur ticket pour la Côte d'Ivoire et ça démarre plutôt bien hein, pour le Ghana, vainqueur face à Madagascar.
Les Black Stars qui ont balayé les Baréas 3-0, but de Kudus, Afenadjian et Boukari. Le Ghana qualifié pour la prochaine Coupe du Monde prend la tête du groupe E grâce à une meilleure différence de but que l'Angola, tombeuse plutôt de la Centrafrique à Luanda. Ce sont pourtant les fauves du bas Oubangui qui ont ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à Samuel Ned. Mais ils ont ensuite encaissé deux buts coup sur coup en seconde période. Score final 2-1 pour les Angolais. Le sélectionneur de la Centrafrique, Raoul Savoie, loin d'être abattu malgré la défaite.
Nous avons en effet joué un bon match à Luanda avec un engagement de tous les instants, une débauche d'énergie incroyable. En deuxième mi-temps, malheureusement, on tape le poteau. Puis le gardien angolais fait un super barré sur un coup de pied arrêté. Et pratiquement dans la foulée, on prend l'égalisation. Là, on a eu un moment un peu difficile. Malheureusement, on prend un deuxième but, je pense, évitable. Puis ensuite, là, de la fin de match, on a essayé de pousser. On a quelques situations, mais sans avoir la chance de la mettre dans les filets. Donc voilà, on termine sur une courte défaite 2-1. C'est frustrant, mais je crois que l'Angola était dans l'ensemble supérieur au niveau de l'expérience des joueurs. On est capable de le faire, il faudra de la chance, mais il faut d'abord beaucoup de travail.
Raoul Savoie, sélectionneur des Fauves du Baoubangui avec Rolf Steve Diama. Autre résultat du jour, victoire de la Libye face au Botswana 1-0. De quoi dignement fêter le retour du public dans leur stade de Benghazi après 9 ans de huis clos. La Libye provisoirement seule en tête du groupe J avant Tunisie, Guinée équatoriale. Ce sera demain.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
C'était un extrait de You Are The Reason, chanté par Barbara Pravi et le Britannique Callum Scott. Tout de suite, la chronique économie, comme chaque jeudi. Et aujourd'hui, on va parler de la guerre de l'eau qui fait rage en Ukraine, puisque les systèmes de distribution ont tous été détruits. Reportage à suivre.
La rubrique économique de ce jeudi, on vous propose ce dossier sur la guerre de l'eau qui fait rage en Ukraine, avec les systèmes de distribution détruits à cause des combats. Arnaud Pontus et Dominique Bayard pour RFI.
L'accès à l'eau est devenu un luxe dans les villes ukrainiennes où les systèmes de distribution ont été détruits par les combats. On a entendu les reportages de nos envoyés spéciaux. L'armée russe a-t-elle transformé cette ressource vitale en arme de guerre?
Alors, c'est l'hypothèse partagée par des experts militaires et des chercheurs spécialisés dans l'étude de l'eau. Depuis le début de l'offensive, le contrôle de cette ressource vitale a été une priorité constante du Kremlin. D'abord pour rétablir sa distribution en Crimée. En 2014, après l'annexion de la péninsule par l'armée russe, les Ukrainiens détournent le canal de 400 km qu'il alimentait en construisant un barrage, privant ainsi cette région aride de l'ingrédient indispensable à son agriculture. 85% de son approvisionnement en eau douce dépendait de ce canal. En février dernier, deux jours après le début de leur offensive, les Russes reprennent le contrôle du barrage et rouvrent les vannes. L'eau circule à nouveau, comme en témoignent depuis quelques semaines les habitants de Crimée. Le retour de l'eau en Crimée a été sans doute l'une des raisons motivant l'entrée en guerre de la Russie.
Et dans l'est de l'Ukraine, les coupures d'eau ont surtout servi à démoraliser la population.
Oui, on a tous en tête les images, les témoignages de ces Ukrainiens contraints de faire la queue pour obtenir quelques bidons d'eau potable. On l'entendait encore dans le reportage de nos envoyés spéciaux dans le journal de 7 heures. Le village de Mirolaïv a été privé d'eau pendant un mois et à Mariupol, les derniers habitants ont aussi subi ces privations à cause de la destruction brutale, délibérée des installations. Les canalisations, les usines de traitement d'eau, les stations de pompage sont systématiquement la cible des frappes aériennes russes en violation des conventions internationales. La Russie a bien fait de l'eau une arme de guerre, une stratégie qu'elle a déjà expérimentée sur d'autres champs de bataille. En Syrie, par exemple, où son aviation a bombardé des stations de pompage. En Ukraine, les Nations Unies estiment aujourd'hui qu'1 400 000 habitants sont privés d'eau, 4 500 000 exposés à ce risque.
Et les Ukrainiens souffrent aussi de la pollution des sources.
Oui, dans les régions industrielles où les sols sont déjà souillés par des rejets chimiques, la contamination de l'eau par de nouvelles destructions est un dommage collatéral des combats. Dans l'est de l'Ukraine, les habitants de la ville de Lysychansk font bouillir l'eau qu'ils vont récupérer à une source à l'écart des habitations. Une source que les habitants redécouvrent chaque fois que leur région est en guerre. Cette source a été providentielle en 2014 et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, se souviennent les plus anciens. Ceux qui conservent l'accès à l'eau le protègent au maximum. Dans la région du Donbass, le canal bâti dans les années 50 par les soviétiques descend du nord jusqu'à Mariupol. C'est la seule ressource pour 6 millions d'habitants de la région. En 2014, le système est ébranlé par la Première Guerre et fragmenté entre diverses administrations ukrainiennes ou séparatistes. Mais comme il s'est avéré impossible de le diviser en deux, séparatistes et ukrainiens coopèrent pour le gérer et desservir indistinctement les populations et les industries qui en dépendent. Une exception fragile qui pourrait à tout moment être compromise par de nouveaux combats.
Et on parle maintenant de la déprime concernant le marché de l'orange. Marie-Pierre Olfan, RFI.
C'est mécanique. Depuis le début de la guerre, les volumes d'oranges importés par la Russie sont en baisse. La fermeture des lignes maritimes, les restrictions de paiement et les sanctions de manière plus générale ne facilitent pas les expéditions vers le marché russe. Un marché important pour plusieurs exportateurs d'oranges fraîches, à commencer par un des plus gros, l'Égypte. Si on compte la baisse des commandes chinoises ces derniers mois, c'est un quart du marché égyptien qui est aujourd'hui lourdement perturbé. Dans les prochains mois, d'autres producteurs vont être frappés également de plein fouet. Il s'agit de l'Afrique du Sud et de l'Argentine qui commencent leur campagne d'expédition. Or, les Russes achètent entre 7 et 10% des exportations sud-africaines et 20% des oranges argentines. À cela, il faut ajouter les volumes beaucoup plus faibles, certes, qui ne partent plus en Ukraine. Ces surplus risquent de se reporter sur le marché européen où la consommation est déjà à son maximum, voire en déclin dans certains pays comme la France et l'Allemagne. ligne. Dans un marché qui n'est pas extensible, il sera d'autant plus difficile pour les pays impactés de séduire de nouveaux acheteurs. La conséquence inévitable de cette abondance, c'est une baisse des prix. La principale variété d'orange commercialisée actuellement a perdu 20% par rapport à l'année dernière. À la demande qui patine s'ajoute une production excédentaire. L'Espagne, premier fournisseur européen, a encore fait cette année une bonne récolte. Celle de l'Afrique du Sud devrait atteindre aussi un très bon niveau et alimenter un peu plus la baisse des prix.
On va parler théâtre aujourd'hui puisqu'à Sydney va se jouer la nouvelle pièce What Have You Done. La première représentation, c'est jeudi 2 juin. Laurent Auclair, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le scénariste de la pièce.
Bonjour, merci de nous recevoir.
On est aussi en ligne avec Sophie Lepovic. Sophie, vous êtes la productrice de What Have You Done et vous êtes également actrice dans cette pièce.
Oui, c'est juste. Bonjour Marianne.
Bonjour. Donc, What Have You Done, c'est une enquête criminelle, un thriller sur fond d'humour. C'est une comédie. C'est bien ça, Laurent ?
Oui, alors c'est vraiment une comédie. Moi, je suis un grand fan du Café Théâtre à Paris. J'allais beaucoup au Café de la Gare et bien sûr, j'ai été influencé par le Splendide toute ma vie. Et donc, j'ai voulu écrire cette petite farce, entre guillemets, qui se rapproche un petit peu sur le ton des petits meurtres d'Agatha Christie qui ont été adaptés à la télévision, où on a un crime au départ et puis après tout s'emballe et forcément rien n'est comme prévu et personne, enfin tout le monde a des secrets à cacher et qui vont se dévoiler au fur et à mesure de la pièce.
Et quand on regarde l'affiche de la pièce, avec tout ce maquillage et ces tenues comiques comme vous dites, on est quasiment même dans le burlesque.
Oui, on est vraiment dans le burlesque et le metteur en scène Gareth Cruikshank, qui a travaillé avec Sophie, a vraiment essayé de retranscrire cette tradition qui est plus française qu'anglo-saxonne, et vraiment de trouver toute la légèreté du théâtre de boulevard que le Café Théâtre a si bien repris dans les années 70. Et donc on essaye un petit peu ici de retrouver à travers cette pièce.
Donc cette pièce, vous l'avez écrite, une pièce comique, on l'a dit, une enquête criminelle, un thriller. Racontez-nous, quelle est l'histoire ?
On trouve Raymond au départ, qui avait rendez-vous avec un autre homme dans la nuit pour satisfaire des besoins naturels. Et donc cette personne est décédée chez lui. Et donc il appelle son meilleur ami John en lui disant « tu es mon meilleur ami, est-ce que tu es prêt à déplacer un cadavre pour moi ?» Et forcément, John arrive et ne s'attend pas du tout à trouver un cadavre dans l'appartement et commence alors l'enquête pour savoir comment est mort cet homme et ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être plusieurs possibilités par lesquelles il serait mort.
Et Sophie, vous jouez dans la pièce, donc vous avez produit cette pièce, vous êtes la productrice, également actrice, et si je dis pas de bêtises, vous êtes la sœur du défunt.
Tout à fait, je suis aussi la voisine de Raymond, chez qui le défunt se trouve, enfin, est-il mort ou pas, ça, tout le monde peut accuser tout le monde à un moment donné, il y a des raisons qui pourraient faire que chaque personne dans la pièce, Raymond, John ou Sarah, pourrait être le coupable. Et il se renvoie la balle et tout le monde essaye un peu de cacher qui il est. Ce maquillage, en fait, représente aussi un peu les masques que tout le monde porte. On se présente d'une certaine façon au monde extérieur, mais en fait, qui sommes-nous? Que cachons-nous? Et il y a constamment des rebondissements parce qu'on se rend compte qu'effectivement, qui a fait quoi?
On n'en dit pas trop justement parce qu'il faut qu'on vienne voir cette pièce. Ça fait quoi, Sophie, de remonter sur les planches après deux ans et demi où ça a été un petit peu compliqué avec le Covid ?
Oui, effectivement, c'est un peu... ça va faire du bien, enfin, on croise toujours les doigts parce que le Covid, malheureusement, il se promène toujours partout. Donc récemment, on a eu notre directeur qui est aussi dû se reposer et s'isoler à cause du Covid. Donc ça chamboule un peu tous les programmes. On essaye d'y croire. On fait tout un peu à la dernière minute en se disant « bon, ça y est, là, je pense qu'on est bon ». Bon, après, c'est compliqué pour les acteurs, pour pour tout le monde, parce que il y a toujours cette incertitude qui est là. Mais bon, c'est vrai que ça va faire beaucoup de bien, et je suis très contente que ça soit une farce, une bonne comédie, parce que je pense que les gens ont besoin de bien rigoler, là.
Vous le voyez autour de vous, vous vous rendez compte que le public est au rendez-vous?
Oui, bah, je suis allée voir une pièce ce week-end, une pièce montée par Anna Jaja à Belvoir, là, et je pense que les gens sont en demande, les gens sont en manque d'aller voir ces petites pièces de théâtre qu'on aime tous, et j'espère que ça sera bien accueilli comme à l'habitude.
Et vous, Laurent, en tant que scénariste, vous avez été impacté par le Covid. Je crois que What Have You Done est la deuxième pièce que vous écrivez.
Oui. Et c'est vrai qu'on a déjà repoussé un petit peu What Have You Done. On avait prévu de le faire à Fringe, au Festival Fringe en septembre dernier. Et puis, bien sûr, le festival a été annulé pour cause de Covid. Donc, on a dû changer un petit peu les dates. Donc, ça me fait vraiment très, très plaisir. D'abord, parce que j'ai travaillé avec Gareth et Sophie sur la première pièce que j'ai écrite l'année dernière, Love According to the Clash. Et ça s'est tellement bien passé. Et ils ont vraiment une énergie qui correspond à mon écriture. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit le personnage de Sarah. Pour les gens qui connaissent un petit peu Sophie, vont sans doute voir des similitudes entre Sophie et Sarah dans sa façon de voir la vie et vraiment dans cette énergie toujours positive, mais qui déplace des montagnes.
Ah bon, merci Laurent.
Et justement, Laurent, comment vous avez été inspiré par cette pièce? Est-ce que vous l'avez construite autour de Sophie et autour des acteurs, ou est-ce que vous avez eu l'idée de la pièce et ensuite vous avez appelé Sophie? Comment ça s'est passé?
C'était un petit peu les deux, je dirais. J'ai eu tellement de plaisir à travailler avec toute l'équipe sur Love According to the Clash, qui était une pièce avec 5 acteurs, qui était aussi donc mise en scène par Gareth, et Sophie faisait le seul personnage féminin. Et je me suis dit que ce serait bien de rêver de reprendre la même équipe. Et donc j'ai commencé à penser à une pièce qui pourrait se passer un peu avec le même nombre de personnages, sans une énorme production. Et puis j'ai toujours été taraudé par cette idée de jusqu'où on peut aller pour aider un ami et jusqu'où on peut se mettre en danger pour aider un ami. Et puis et forcément donc cette idée m'est venue sous la forme d'une farce, parce que c'est le théâtre que j'aime aller voir. J'aime beaucoup les tragédies aussi, mais c'est vrai que j'aime bien ce rythme enlevé de la farce un peu burlesque qui sont des pièces assez courtes. Et qui permettent vraiment de s'échapper du monde et une fois qu'on est dans le théâtre, tout peut arriver et on est toujours surpris par le prochain événement qui arrive. Donc c'est un petit peu ça qui me motive pour écrire ces pièces-là.
Et sans trop en dire, vous seriez prêt à aller aussi loin que les personnages pour aider un ami ?
Je me suis posé la question. Je pense que peut-être. mais c'est vrai que ça pose forcément un cas de conscience, et c'est bien de pouvoir justement se le poser sur scène avec sans les conséquences de la vraie vie, entre guillemets.
Sur scène, What Have You Done, c'est du jeudi 2 juin au samedi 11 juin, 19h30, au Chipon Street Theatre à Sydney, en Australie. La représentation du dimanche 5 juin, elle, est à 17h. Sophie Lepovic, vous êtes sur scène. Laurent Auclair, vous êtes le scénariste de cette pièce. Un dernier mot, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent aujourd'hui pour leur donner envie de venir voir cette pièce, plus que vous ne l'avez déjà fait dans cette interview?
Ben écoutez, je pense que si vous, tous ceux qui veulent passer une bonne soirée, qui ont envie de bien rigoler, ben il ne faut pas qu'ils hésitent, parce que il y a du rebondissement constant dans cette pièce, et c'est très drôle. On n'a pas le temps de réfléchir sur ce qui se passe et on rigole de blague en blague. C'est une pièce qui est vraiment très bien écrite par Laurent. Il y a un rythme incroyable. En tant qu'acteur, on adore, on s'amuse, on la répète déjà depuis 6 semaines et on rigole encore des blagues. Donc, si on en rigole encore en les connaissant par cœur et plus que par cœur, je pense que pour ceux qui vont découvrir cette pièce pour la première fois, il y a aucun doute, il va avoir du rire.
Et c'est vrai que je suis d'accord avec Sophie, non pas sur ma qualité d'écriture, je te remercie beaucoup de ce compliment, mais c'est vrai que je crois que surtout après 2 ans d'interruption de pratiquement toute activité culturelle, Je trouve que c'est très très bien de pouvoir sortir de nouveau et puis de venir avec ses amis voir une comédie très légère, très burlesque où on est vraiment dans les portes qui claquent et le rire franc et c'est vrai que ça me moi c'est pour ça que je reviens au théâtre. Je suis allé voir quelques pièces depuis le Covid et pratiquement que des comédies parce que j'ai besoin de cette légèreté et je suis content qu'on puisse apporter cette légèreté là à travers la pièce What Have You Done.
Bien sûr, on en a tous besoin, ça va faire du bien. Merci beaucoup Laurent, Sophie.
Merci beaucoup.
Merci Marianne.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Vous êtes avec SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir à nouveau sur les ondes de SBS French, Chris Cody, le musicien de jazz australien. Bienvenue, Chris, à nouveau sur SBS.
Merci, Jean-Noël. Ça fait très plaisir d'être avec vous.
Et on parle du concert de ce dimanche 5 juin. C'est dans le cadre de Sydney Con Jazz Festival, avec une vingtaine de groupes pour le line-up. Et peut-être racontez-nous un petit peu d'abord ce que c'est le Sydney Con Jazz Festival.
Le Sydney Con Jazz Festival, c'est un festival qui a été démarré il y a quelques années maintenant et ça commence à prendre des dimensions, heureusement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de festivals de jazz en Australie par rapport à la France. Et c'était l'idée des membres justement de la faculté de jazz au conservatoire, notamment Dave Thicke, saxophoniste, a créé ce festival, invité des groupes australiens divers. Et maintenant, en plus, ils sont en position d'inviter des groupes internationaux aussi. Donc, il y a une belle programmation cette année avec des musiciens d'Europe, des États-Unis et aussi d'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un festival qui se tient dans une seule journée, de midi, je crois, ça commence, ou 11h du matin ouais. Même, jusqu'à 9h du soir. Et il y a une bonne trentaine de groupes qui jouent et on peut prendre des tickets, des billets pour un seul concert à la carte ou on peut prendre un package où on peut assister à plusieurs concerts. Donc le format c'est intéressant, c'est bien, c'est vraiment pour tous les budgets aussi. Il y a des prix de billets très raisonnables qui commencent pour les étudiants à $10 et après selon le package évidemment on peut payer plus cher, mais déjà le fait qu'on peut assister à un concert de haut niveau à partir de $10, c'est super, je trouve.
Super, magnifique. Et quant à vous et votre groupe, vous serez sur scène à quelle heure et où?
Moi, je joue sur la scène Est. C'est dans un auditorium à l'est du bâtiment. C'est donc au Conservatoire de Sydney. Ouais. Ces anciennes écuries du gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, historiques, qui ont été transformées il y a longtemps maintenant en conservatoire de musique, et puis qui ont été rénovées il y a 20 ans, je crois maintenant, 15 ans. Quand j'étais en France, et donc c'est un lieu pour ceux qui connaissent pas encore, vraiment magnifique, où ils ont su incorporer et garder les éléments historiques, mais en même temps avec les dernières technologies en studio, en acoustique, pour des salles de répétition, des salles de concert. Donc c'est vraiment super comme endroit. Et moi, je vais jouer à 6h, c'est juste un set, un concert d'une heure, de 6h à 7h, avec mon groupe, mon quartet, avec Lloyd Swanton à la contrebasse. Il est connu pour son travail avec son groupe The Next, qui tourne régulièrement en Europe. Mmh. Un batteur, James Waples, et jeune saxophoniste, étoile montante, Michael Gennikos, au saxophone ténor, et moi au piano. Et on va jouer un répertoire des anciens morceaux, mais aussi des tout nouveaux morceaux. Donc un répertoire assez varié.
Et ensuite, Chris, vous allez prendre un petit repos et puis vous revenez sur scène le 21 juin pour la fête de la musique.
Oui, exactement. Je suis très content pour la première fois en Australie de pouvoir assister à une fête de la musique en Australie, parce que j'ai joué régulièrement à la fête de la musique à Paris et même en province, en France. Mais là, c'est super. On commence de mieux connaître cette fête, ce festival. Faire de la musique dans les deux sens, hein, c'est une célébration de la musique, mais c'est aussi faire de la musique. Et ça, c'est une belle initiative cette année de la part de l'ambassade française, ouais. Le consulat, et le bon travail de Karine Maurice et Aliénor de Troissy, avec aussi toute l'équipe au Phoenix Central Park. Et ça aussi, c'est un lieu, pour ceux qui connaissent pas, un lieu magnifique. C'est des anciens dépôts, je crois, qui avaient été peut-être incendiés, qui étaient dans un mauvais état. Et Judith Nielsen, qui est une philanthrope et la propriétaire du White Rabbit Gallery, un musée d'art contemporain à Sydney assez connu, elle a transformé ces lieux dans un espace... d'un point de vue architectural, mais aussi, comment dire, lyrique même, en un espace vraiment unique et magnifique. C'est comme un nid d'oiseau inversé ou l'intérieur d'un bateau. Ça m'a fait penser un petit peu à ça aussi. C'est-à-dire que c'est tout l'extérieur, c'est en béton massif, mais avec ces sculptures en bois à l'intérieur, chaque espace est sculpté avec des passages d'eau et des niveaux variés, avec des points de vue étonnants à l'extérieur et à l'intérieur. Et acoustiquement, c'est superbe. Ils ont aussi un très très beau piano Fazioli. Donc ça fait 4 ans, je crois, maintenant qu'ils produisent des concerts, des danses, des chorégraphies de danse contemporain, un lieu d'exposition d'art, souvent contemporain, mais pas forcément. Et donc je vais jouer ma suite avec son thème français, Astrolabe, qui a été inspiré par le navigateur Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse. Donc il y a un thème français. C'est justement ça. Musicalement, je voulais représenter des cultures diverses, la rencontre des cultures entre un ancien monde et ce nouveau monde. Donc ça me représente bien être pris un petit peu entre deux mondes, entre la France et l'Australie.
Et donc vous revenez sur ce voyage de la Pérouse à bord de l'Astrolabe et cet album que vous avez enregistré il y a pas si longtemps.
Exact. Oui, c'est l'album que j'ai fait il y a 2 ans. On continue à faire des concerts. Ça a été un peu difficile avec Covid et les lockdowns ici en Australie. Mais musicalement, c'est vraiment un voyage qui parle de la France comme la Pérouse lui-même et qui va à la rencontre d'autres climes, d'autres cultures, d'autres ambiances. Un voyage qui malheureusement a terminé dans la tragédie parce, ouais. Puisque les navires ont été perdus en mer. Un grand mystère qui a duré un bon moment en Australie, en Europe, dans le monde entier, je veux dire. Même Louis XVI, avant d'être guillotiné, a demandé « Y a-t-il des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» Donc j'ai trouvé ce voyage vraiment un récit fabuleux, un récit qui a survécu grâce au journal de bord gardé, écrit par la Pérouse, et qu'il a donné des copies aux Anglais en arrivant. Après Captain Arthur Philip, 3 jours seulement après, ici à Sydney, à Botany Bay, il y a 200 ans. Donc c'est une histoire extraordinaire et musicalement, on cherche à capter un petit peu ses émotions et à les transmettre au public.
Et ce sera bien pour la fête de la musique le 21 juin.
Exactement, pour le 21 juin, et j'espère qu'il y aura d'autres concerts. Je sais que l'Australian Music Association commence à organiser aussi des concerts et faire connaissance de cette fête de la musique en Australie, mais aussi dans d'autres pays du monde, on commence à en parler, à apprécier de plus en plus. Et c'est 40 ans après, évidemment, que Jack Lang a donné le coup de départ à la première fête de la musique. C'était dans l'époque mitterrandienne. Donc c'est quand on pense que ça fait déjà 40 ans que la fête de la musique est avec nous.
Absolument, et je signale aussi que les alliances françaises de Perth, d'Adélaïde organisent aussi des concerts autour de la fête de la musique.
Oui, exactement, et ça c'est, je pense aussi avec la collaboration de Australian Music Association, ils vont faire une transmission directe, même aussi je crois des images de mon concert, à travers le monde autour du 21, le 21, 22, 23, pendant deux, trois jours.
Ce week-end.
Voilà, exactement. On peut regarder, écouter et découvrir d'autres concerts, d'autres musiques un peu partout dans le monde. Donc c'est une initiative fabuleuse.
Et vous avez d'autres projets pour 2022, Chris Colley, peut-être avec des concerts autour du pays?
Oh oui, après ces deux concerts-là, après je vais rentrer en studio pour enregistrer. Je pense que j'en avais parlé avec vous la dernière fois d'un projet qui s'appelle The Outsider, l'étranger, inspiré par l'œuvre de Camus. Et c'était une réflexion sur nos expériences sous Covid. La liberté, la maladie, la peur, la mort, mais aussi le sens de communauté, le courage, l'importance de faire quelque chose. Et donc c'est une musique inspirée un peu par les sons et les couleurs des pays maghrébins, l'Algérie où Camus a grandi, et d'autres pays en Afrique que j'ai visités. Donc c'est une musique très différent à l'Astrolabe de la Pérouse, mais ici c'est plutôt ensoleillé, on peut dire, avec des couleurs africaines et de la Proche-Orient. Donc ça va être au mois de juillet, et j'espère la sortie de l'album se fera avec des concerts naturellement avant la fin de cette année.
Très bien, et toujours un plaisir de vous parler, Chris Colley, et bonne continuation.
Merci beaucoup Jean-Noël, et je vous tiendrai au courant pour la suite, mais merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la musique en Australie.
À bientôt sur SBS. Merci à vous Chris.
Merci, au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
Presque 13h58, l'heure du rappel des titres. 99e jour de l'invasion russe, l'Europe aide économiquement en prenant une nouvelle série de sanctions à l'égard de Moscou. Les États-Unis, eux, aident militairement en envoyant des lance-roquettes à Kiev. Fin du procès ultra-médiatisé qui opposait aux États-Unis l'acteur Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard. Tous deux condamnés pour diffamation, le procès s'est soldé par un verdict à plusieurs millions de dollars. Deuxième tournée diplomatique pour Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, est déjà de retour dans la région Indo-Pacifique, juste quelques jours après son homologue chinois. Et enfin du sport, avec la fin des quarts de finale de Roland-Garros, Nadal, Rude, Zverev et Cilic rejoignent le dernier carré. C'est la fin de cette émission. Elle a duré une heure. Je vous remercie de l'avoir suivie. Merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez la retrouver en intégralité ou alors seulement réécouter les news ou certaines chroniques, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet sbs.com.au/french, sur notre page Facebook SBS French, Spotify ou encore toutes vos plateformes de podcast préférées. Je vous retrouve samedi pour une émission d'une heure encore ensemble. Ce sera la même fréquence et la même heure. Et je vous souhaite d'ici là de passer une excellente journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.